J'ai intitulé cette conférence « Les Vikings, une diaspora européenne » avec un point d'interrogation. Vous verrez que la notion même de diaspora est une, question qui pose, est une notion qui pose un certain nombre de questions sur lesquelles je reviendrai à la fin de cet exposé. Quand on parle des Vikings, il y a tout de suite, je dirais, beaucoup d'imagination qui se met en route. On a des images qui viennent de séries télévisées, on a des images qui viennent de la peinture du 19e siècle, on a des images qui viennent de la bande dessinée. Je vais essayer de ne pas trop parler de tout cela, justement, mais essayer de vous parler des Vikings du 9e, du 10e, du 11e siècle, ou du moins de ce que les historiens et les archéologues aujourd'hui peuvent essayer d'en dire. Pour parler des Vikings à l'époque où ils ont été actifs sur les mers du nord de l'Europe et au-delà des mers du nord de l'Europe, je vais poser quatre questions qui vont scander ma présentation. Première question, c'est des questions qui sont assez banales, hein, qui sont des questions qui se posent assez souvent. Ce sont des questions que j'entends souvent de la part d'étudiants ou que j'ai pu entendre en faisant des conférences comme celle-ci. Est-ce que les Vikings étaient des pirates ou des marchands? Ça, c'est la première question que je vais poser. Ça nous amènera évidemment à définir ce qu'est un Viking. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, ces Vikings? Quels étaient leurs moyens d'action? Comment est-ce qu'ils exerçaient leur activité? Avec quels outils? Avec quels objets? Je vais parler par exemple de leurs bateaux, évidemment, à ce moment-là. Et dans cette deuxième partie, je ferai beaucoup appel aux apports de l'archéologie. La troisième question, c'est la géographie des Vikings. On dit que les Vikings ont découvert l'Amérique, est-ce que c'est vrai? Vous verrez que oui et non. Mais les Vikings sont allés aussi vers l'Est, et il y a des éléments dans, je dirais, la direction orientale qu'ont pu prendre les expéditions Vikings. Et puis, j'en viendrai à une question qui m'intéresse personnellement un petit peu plus, qui fait l'objet principal, à mon avis, de cette conférence. Y a-t-il une diaspora viking? Est-ce qu'on peut parler d'une diaspora viking dans les siècles centraux, disons, du Moyen-Âge au 10e, 11e et encore au 12e siècle? Alors, première question, quand je vous parlais d'images un peu stéréotypées, en voilà une belle. Les Vikings sont-ils des pirates ou des marchands? Donc, la question qui se pose, c'est donc celle de la définition du mot viking. Qu'est-ce que c'est qu'un viking? Je vais commencer par raconter une petite histoire. Une histoire qui est tirée d'un poème skaldique. Donc, les skalds étaient des poètes qui composaient en langue norroise, c'est-à-dire l'ancêtre du danois, du norvégien, du suédois et de l'islandais actuel, la langue norroise qui était la langue commune au peuple scandinave dans le haut Moyen-Âge. Ces skalds composaient des poèmes qui étaient souvent des poèmes en l'honneur de princes, de souverains, dont on faisait l'éloge. Le skald Halldór Skvaldri, du début du XIIe siècle, a composé un poème intitulé « Útfaradrápa », ce qui signifie littéralement « le poème sur le voyage au loin ». Il s'agit d'un poème en l'honneur du roi Sigurd le grand voyageur, Sigurd le pèlerin de Jérusalem, roi des Norvégiens au début du XIIe siècle, qui, comme son surnom l'indique, a fait le pèlerinage de Jérusalem. Quand on fait le pèlerinage de Jérusalem au début du XIIe siècle et qu'on est un roi, ça veut dire qu'on part en croisade. Donc, c'est un roi chrétien qui part en croisade au début du XIIe siècle, comme beaucoup de grands personnages laïcs de l'Occident médiéval. Il part en croisade et, comme c'est un souverain scandinave héritier de la période viking, il part en pèlerinage et en croisade en bateau avec sa petite flottille. Et une fois en Méditerranée, nous dit le poème, il doit affronter des faodurir vikingar, des affreux vikings, des horribles vikings, vikingar. Les horribles vikings en question, ce sont des sarrasins. Ça veut dire que le mot viking, dans le monde scandinave, c'est un nom commun qui veut dire un pirate, un pillard, quelqu'un qui fait une expédition maritime pour s'enrichir par tous les moyens. Et donc, le mot viking, dans le monde scandinave du Haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge central, n'a aucune connotation ethnique. Un viking, c'est un pirate. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa provenance géographique. De fait, le mot viking, dans les sources, apparaît de deux manières, dans les sources en norrois. Il apparaît au féminin, d'abord, une viking. Cela désigne une expédition qui est faite pour se procurer des richesses. Quelle que soit la manière de se procurer des richesses, on va revenir sur les choses que l'on peut faire quand on fait une viking, une expédition maritime, pour s'enrichir. Et celui qui fait une viking, c'est, nous disent les textes norrois, un vikinger. Un vikinger, nom masculin cette fois-ci, c'est quelqu'un qui fait une viking. Donc les horribles vikings que le roi Sigurd a rencontrés en Méditerranée, ce sont effectivement des gens qui font une viking. D'ailleurs, dans les textes latins qui traduisent certains textes norrois, ou au contraire dans les textes norrois qui traduisent des textes latins, très souvent le mot viking est utilisé pour traduire le mot pirata, piratae au pluriel, qui veut dire pirate en latin, et vice-versa. Donc, vraiment, j'insiste, hein, dans le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge central, le mot viking, c'est un nom commun. C'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus d'historiens, moi compris, mais je ne suis pas le seul, hein, loin de là, ne mettent pas de majuscule à viking. Il n'y a pas de raison de mettre une majuscule à un nom commun. Comme on dirait un pirate, un marchand, un croisé, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui est quelque chose, un viking. C'est quelqu'un qui fait quelque chose. En vieil anglais, pour aller regarder comment on les appelle dans d'autres langues encore, on peut les appeler shaveman. Shaveman en vieil anglais, ça veut dire littéralement un homme des bateaux. On utilise aussi le mot witching, qui veut dire à peu près la même chose que viking. On utilise le mot flotta ou ship flotta. Vous avez compris le sens de flotta, hein, la flotte. C'est ce dans quoi il y a des bateaux. Et ship flotta, c'est un homme de la flotte, un homme des bateaux. Donc, il y a cette association, hein, dans les textes de l'époque, les vikings, ce sont des gens qui sont sur des bateaux et qui se livrent à un certain nombre d'activités lucratives et souvent assez violentes grâce à leurs bateaux. Si on regarde maintenant quels sont les usages exacts de ce mot, il y a trois usages principaux. Enfin, il y a trois regards possibles. On peut regarder l'étymologie. D'où ça vient, ce mot viking? La possibilité la plus probable, c'est que ça vienne du mot vik. Il y a plusieurs hypothèses, hein, qui ont été avancées. Le plus probable, c'est que ça vienne du mot vik, qui veut dire un golfe, une baie, un bras de mer. Voilà. Une viking, c'est le fait d'aller s'enrichir dans la mer. Ça ne nous apprend pas grand-chose. l'étymologie elle-même ne nous apprend pas grand-chose. Dans les textes du Haut Moyen-Âge, il y a deux usages principaux. Le mot masculin, vikinger, un vikinger, celui qui fait cela, c'est souvent péjoratif, avec des nuances selon les périodes, mais souvent, c'est un mot qui est utilisé dans un sens assez négatif, comme pirate en français. Ce n'est pas quelqu'un de sympathique. En revanche, le mot féminin, une viking, une expédition maritime pour s'enrichir, est utilisé de manière très neutre par les auteurs. Un tel est allé faire une viking, c'est une expédition. Et les auteurs ne semblent pas condamner de manière particulière ce type d'activité. C'est quelque chose que l'on fait dans ces mondes du Nord. Et puis, à partir du XIXe siècle, le mot a pris des sens nouveaux. On a exhumé le mot, et là on s'est mis à lui mettre une majuscule. On a exhumé le mot en lui donnant des sens supplémentaires qui dénaturent un petit peu, à mon avis, le sens réel du mot viking. Avec deux possibilités. Il y a certains historiens qui ont réservé ce mot uniquement aux pirates, aux gens qui faisaient ce genre d'activité. Et puis il y a des historiens, et à mon avis ce n'est pas une très bonne idée, qui se sont mis à utiliser le mot viking pour parler de tous les Scandinaves de l'époque. Mais tous les Scandinaves de l'époque n'étaient pas des vikings. Il y avait des Scandinaves, en fait l'immense majorité des Scandinaves de l'époque, ils naissaient à la ferme, ils travaillaient à la ferme, ils se mariaient, ils avaient des enfants à la ferme, ils mouraient à la ferme, puis voilà. Puis la moitié des Scandinaves de l'époque, de toute façon, n'étaient pas des vikings, c'était des femmes. La question de savoir s'il y a des femmes guerrières à l'époque viking est une vaste question. Que je n'aborderai pas, peut-être s'il y a des questions. Alors, je reviendrai sur cette carte après, mais pour essayer de comprendre ce que c'est que ce phénomène viking, qui a marqué quand même la fin du 8e, le 9e, le 10e, le 11e siècle, hein, 750-1100 à peu près, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour savoir si c'était des pirates ou des marchands, pour savoir ce qu'il faisait, il faut essayer de voir d'où ça vient. Alors pendant longtemps, on a apporté des explications, il y a des explications qui ont été avancées par des historiens ou par des gens un peu moins historiens, qui aujourd'hui paraissent peu satisfaisantes à la plupart des spécialistes. On a invoqué le réchauffement climatique. Et c'est vrai que la fin du Haut Moyen-Âge, 8e, 9e, 10e siècle, est une période qui correspond à un lent réchauffement climatique. On va vers la période qu'on appelle parfois l'optimum médiéval. Entre le 11e et le 13e siècle, le climat est plus chaud qu'il ne l'était au 17e, 18e, 19e siècle. Et donc on a dit, la mer monte avec le réchauffement climatique, il y a de moins en moins de terre, donc il faut qu'il quitte la Scandinavie. Le problème, c'est que la mer monte partout, et pas seulement en Scandinavie. Donc, ça ne marche pas si bien que ça, comme explication. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle ça ne marche pas. On a parlé de la surpopulation. Il y aurait eu énormément de monde en Scandinavie, il n'y a pas assez à manger. Alors c'est vrai que c'est une terre très pauvre, hein, la Scandinavie du Haut Moyen-Âge. Comme il n'y a pas assez à manger, ils sont obligés de sortir en grand nombre et de se déverser sur le reste de l'Europe. En fait, c'est une très très vieille idée, qui remonte au 6e siècle au moins, l'idée selon laquelle la Scandinavie est la vagina gentium, en latin, la matrice des peuples, celle qui fait naître les peuples, qui fait sortir les peuples d'elle. C'est lié à l'idée des invasions barbares, etc. Voilà. Il y aurait cette Scandinavie d'où les peuples se déverseraient sur l'Europe. Aucune source ne nous permet vraiment de confirmer cette hypothèse. On a avancé des explications idéologiques. Les vikings seraient des païens qui ont une haine du christianisme. Et à cause de leur haine du christianisme, ils vont piller les monastères, piller les abbayes, les cathédrales, etc. On va voir qu'une bonne partie des vikings sont chrétiens. Donc là encore, ça ne marche pas. Quand les Vikings deviennent chrétiens, ils n'arrêtent pas de faire des Vikings. Ils n'arrêtent pas de faire des expéditions. On a apporté des explications que j'appellerais essentialistes, c'est-à-dire en disant que c'est des hommes du Nord qui sont courageux, qui sont combatifs, qui sont féroces. Vous voyez comment, entre 1930 et 1945, ce genre d'idée a pu être instrumentalisé. Il n'y a pas de raison que les hommes du Nord soient plus féroces et plus combatifs que les hommes d'autres régions. L'explication la plus courante dans les textes du Moyen-Âge eux-mêmes, c'est que c'est Dieu qui punit les chrétiens pour leurs péchés. Le peuple chrétien a péché, il n'a pas fait la volonté de Dieu, il n'a pas été fidèle à Dieu, et donc Dieu le punit. Toutes ces explications, pour un historien actuel, ne sont pas très satisfaisantes. Alors, pour comprendre, on va regarder quelques dates. La date classique, celle que dans tous les livres d'histoire vous verrez, c'est le phénomène viking commence en 793 avec le sac de Lindisfarne, une abbaye du nord-est de l'Angleterre. C'est en effet la première mention dans des textes, la première mention dans des textes occidentaux d'une expédition viking. Mais quand on regarde l'archéologie, alors on a d'autres mentions dans les années 790, hein, on les a en Irlande, on les voit près de l'île de Noirmoutier en 799, donc il y a quelque chose qui a lieu à ce moment-là. Hein. Ça commence à peu près à ce moment-là, dans les textes. Mais l'archéologie montre que dès les années 770, il y a un grand nombre de monnaies arabes que l'on voit apparaître dans le nord de l'Europe. Et donc, il y a des expéditions, il y a des flux qui existent entre la Scandinavie et la Baltique, et au-delà, l'Europe orientale, la Caspienne, le califat de Bagdad. Pour que cet argent arrive, il faut bien qu'il y ait des gens qui l'aient apporté. Mais c'est des très très grands nombres de monnaies. Hein. C'est vraiment des monnaies d'argent en très grand nombre. Une autre chose importante, c'est de voir qu'à partir des années 720 et encore plus à partir des années 770, les Francs, qui dominent à l'époque la France, l'Allemagne, le Benelux actuel, étendent leur domination en direction du Nord. Et ça bouleverse un certain nombre de choses en Scandinavie. Ça bouleverse des équilibres au-delà de la frontière. L'archéologie a montré aussi que dans les années 750, on a la fondation d'un comptoir scandinave dans le nord de la Russie actuelle, pas très loin de Saint-Pétersbourg, à Staria Ladoga. Ça, l'archéologie l'a montré dès les années 750. Donc vous voyez ça. Ça brasse dans le nord au milieu du 8e siècle. Ça commence à bouger. Et puis ça explose dans les années 790. Mais je dirais que quand ils commencent à attaquer dans les années 790, ça faisait déjà bien 20, 30, 40 ans qu'ils fréquentaient ces routes maritimes, qu'ils les connaissaient. Ce n'est pas des gens qui débarquent de nulle part et qui ne connaissent pas le pays. Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent s'enrichir. Ils viennent s'enrichir par le commerce, et c'est sans doute la première activité qu'ils ont exercée. Le commerce de quoi? Le commerce des produits du Nord. Ils ont des choses à vendre, ils ont des fourrures à vendre, ils ont de l'ivoire de morse à vendre. Le morse fournit un ivoire qui est de moins bonne qualité que l'éléphant, mais qui permet quand même de faire des très beaux objets. Et donc, ils ont des choses à vendre. Ils ont aussi des choses à acheter. Ils ont des choses à récupérer, pas nécessairement à acheter. Mais ils récupèrent de l'argent arabe, je vous l'ai dit, des monnaies arabes, de l'argent franc aussi, d'ailleurs. Et ils récupèrent des épées franques, ils achètent des épées franques, qui sont très réputées. Les francs, les Carolingiens ont interdit par la loi la vente des armes à leurs ennemis, mais il y a de la contrebande. Et les épées franques ont une très bonne réputation. On a même des imitations d'épées franques, avec des marques qui sont imitées, les contrefaçons. Deuxième activité, la piraterie, le pillage. Ben oui, quand vous fréquentez régulièrement des routes, que vous êtes armé, parce que sur ces routes qui sont dangereuses, on s'arme de toute façon, hein, même pour faire du commerce, et que vous vous rendez compte au bout d'un moment qu'il y a des endroits qui sont très riches et qui ne sont pas surveillés, qui ne sont pas protégés, le monastère par exemple, eh bien, au bout d'un moment, ça devient tentant de se servir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On récupère des biens matériels, du sel, par exemple, des animaux, pillant une région, on récupère du bétail, des chevaux, et des humains. C'est la principale marchandise. On a un immense commerce d'esclaves à l'échelle de tout le nord de l'Europe, dont les Vikings sont les principaux acteurs. Mais c'est pas tout. On peut aussi faire dans l'extorsion, la rançon. Plutôt que de piller les gens, on peut les enlever et puis les rendre contre rançon. J'ai un cas assez amusant qui a été remarqué par l'historien Stephen Lewis, qui s'est demandé pourquoi est-ce que les Vikings revenaient pratiquement tous les ans à Noirmoutier pendant 20 ans. Et une fois qu'on a pillé l'île de Noirmoutier avec son monastère, pourquoi revenir tous les 20 ans ? C'est sans doute qu'ils venaient chercher du sel. Donc ils arrivent, ils disent à la population, si vous ne voulez pas qu'on vous massacre, donnez-nous le sel que vous venez de récolter. Donnez-nous une partie du sel. Et ils repartent avec du sel et ils vont le vendre à un autre endroit. Hein. Commerce et pillage ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Ça fonctionne ensemble. La rançon. Il y a un exemple qui est célèbre. L'abbé de Saint-Denis, Louis, qui est un cousin du roi Charles le Chauve en 858, est enlevé par des Vikings et il est rendu contre une somme gigantesque de 688 livres d'or. La livre, c'est à peu près 400 grammes hein, à l'époque. Et 3250 livres d'argent. Une livre d'argent, c'est 240 pièces de monnaie d'argent. Donc 240 fois 3250, je vous laisse faire le calcul, c'est gigantesque. On peut jouer plus petit. Dans la région de Porto, en 1026, il y a des Vikings qui débarquent et qui enlèvent une femme nommée Métilie et sa fille. Et ils la rendent au mari de Métilie contre une épée, une chemise, trois écharpes, une vache et trois muis de sel. C'est pas l'abbé de Saint-Denis. C'est des gens qui ont des moyens moins importants, mais le mari de Métilie est obligé de s'endetter auprès du monastère voisin pour payer la rançon de sa femme et de sa fille. Il s'endette. 20 ans plus tard, il ne peut pas rembourser. Il doit donner sa terre au monastère. Et c'est grâce à ça qu'on a un document qui nous explique comment ça s'est passé. On peut rançonner un royaume entier. Entre la fin du Xe et le début du XIe siècle, pratiquement tous les ans, des flottes vikings arrivent en Angleterre et prennent ce qu'on appelle un Danegeld, littéralement l'argent des Danois. En 1012, c'est le montant le plus élevé, le roi Æthelred II est obligé de payer 48 000 livres d'argent, ça fait à peu près 18 000 kilogrammes d'argent. Évidemment, quand on paye les Vikings tous les ans pour qu'ils s'en aillent, ils reviennent. Un autre moyen de s'enrichir, c'est de conclure des alliances, faire du mercenariat, se mettre au service de l'empereur franc Lothaire Ier, au service du roi d'Angleterre. Alors, après avoir pris les 18 000 livres, les 18 000 kilogrammes d'argent, le même chef viking est devenu un allié au service du roi d'Angleterre en 1012, la même année. Et évidemment, il a reçu de l'argent en plus pour ses bons services. Les empereurs byzantins ont une garde de gens venus du nord pendant pratiquement tout le XIe siècle. Et puis alors le mieux, c'est évidemment de conquérir des territoires, de s'installer. Parce que ça permet de distribuer des terres à des fidèles, de s'enrichir de manière cette fois-ci vraiment permanente, de s'implanter dans d'autres régions. Alors, il y a des implantations plus ou moins durables. Rorik en Frise, ça n'a pas bien marché. Le royaume d'York, ça a marché 80 ans, c'est déjà pas mal. Guthrum en Est-Anglie, l'Est-Anglie c'est au nord-est de Londres, hein. Ça a duré 40 ans à peu près. Rollon, dans la région de Rouen, a fondé une lignée ducale qui a duré beaucoup plus longtemps, hein, et puis qui a donné ensuite des rois de l'autre côté de la Manche. Et puis, je vous reparlerai du Groenland. Voilà un petit peu ce que font les Vikings. Alors, comment ils le font ? Par leurs bateaux, qu'on appelle parfois les drakkars. Alors, oubliez ce mot. Le mot drakkar n'apparaît jamais dans les textes de l'époque. Le mot drakkar est une invention du XIXe siècle. Alors, d'où il vient ? Le mot dreki en norrois veut dire dragon. Au pluriel, un dreki, des drekkar. Et dans la poésie, il arrive que les bateaux soient appelés le dragon des mers, le serpent des mers, les talons des mers. C'est une image. Et en effet, il y a des figures de proue qui sont connues en forme de dragon, hein, comme la figure du navire d'Oseberg au IXe siècle, qui ressemble à un dragon, effectivement. À partir de ce mot drekkar, et en particulier de la forme suédoise que ce mot a pris, on a inventé le mot drakkar au XIXe siècle. Mais ce n'est pas le nom qu'on utilise à l'époque. Le mot qu'on utilise le plus à l'époque, c'est skip, qui est de la même racine que ship en anglais, le bateau, ou schiff en allemand. Le norrois est une langue germanique, donc on retrouve les mêmes racines qu'en anglais et qu'en allemand. C'est une tradition de construction navale extrêmement riche, construction à clin, c'est-à-dire que les planches de bordage se chevauchent, et on a des bateaux de styles très différents. À Skuldelev, au Danemark, on a retrouvé il y a quelques années, enfin il y a une trentaine d'années je pense, on a retrouvé 5 épaves qui avaient été coulées volontairement à l'entrée du fjord pour obliger les bateaux à passer par un passage resserré pour contrôler l'entrée du fjord. Et ces navires avaient été coulés volontairement. C'était des navires en mauvais état, des vieux bateaux. Mais pour l'archéologue et l'historien, c'est merveilleux parce qu'ils ont coulé à cet endroit-là 5 types de bateaux différents. Ils n'ont pas coulé 5 bateaux pareils. Donc on a, par exemple, ce que vous voyez, je vais vous montrer, un grand navire de guerre, ce qu'on appelle un long skip, grand navire de guerre. On a un gros navire de commerce, ici. Petit navire pour faire du cabotage, un petit bateau, ce qu'on appelle une snekia. Ça a donné esnek en parler normand, pour faire des coups de main, des bateaux extrêmement rapides, des barques à voile très rapides. Le grand bateau de school d'élèves 2-4 a été reconstitué. Et a fait la traversée, il s'appelle The Sea Stallion of Glendalough, le bateau tel qu'il a été reconstitué à Roskilde au Danemark, et il a fait la traversée de Roskilde jusqu'à Dublin. Pourquoi Dublin ? Parce que quand on a étudié le bois dont était fait le bateau original, on s'est rendu compte que les arbres avaient été abattus en Irlande. Donc c'était des Vikings installés en Irlande qui avaient construit ce bateau, et ce bateau a fini sa vie au fond d'un fjord au Danemark. C'est assez typique, hein, de ces histoires du monde viking. Voilà pour les bateaux. Alors deuxième moyen bien connu, la violence. On dit voilà, les Vikings sont des pillards, ils sont très violents. Et c'est vrai que les textes le disent, hein. Petit passage de la chronique de Nantes, une chronique du Xe siècle, qui raconte comment les Vikings sont rentrés dans la ville de Nantes et ont tout pillé le jour de la Saint-Jean, vers 840, je ne sais plus la date exacte. Alors, ce sont des textes qui parlent de violence. Ces violences ont eu lieu, mais ces textes qui sont écrits par les victimes sont évidemment des textes qui ont tendance à donner à ces violences une dimension rhétorique très forte. En plus, ce sont des auteurs ecclésiastiques qui écrivent, la plupart du temps, presque exclusivement. Et donc, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part de la violence réellement exercée et de la manière de la décrire. Mais les Vikings ne sont pas des enfants de cœur, ça c'est certain. Ce ne sont pas des gentils marchands. Parfois ils le sont, mais pas toujours. Les Vikings sont en particulier accusés d'avoir tué un certain nombre de dirigeants chrétiens, des évêques, des abbés, des rois, qui sont devenus des saints par la suite. Et ça devient presque un stéréotype dans beaucoup de vies de saints, de raconter comment le saint a été martyrisé par les Vikings. Vous avez ici une image du XIIe siècle qui montre le martyr de saint Edmond, qui est un roi anglais qui est mort vers 865-870. La violence des Scandinaves est présente aussi dans les textes scandinaves eux-mêmes. La violence des Vikings est présente dans les textes scandinaves. Il y a un mode d'exécution célèbre qui est souvent repris dans la bande dessinée, dans les séries, etc. C'est ce qu'on appelle l'aigle de sang, qui consiste à arracher les côtes dans le dos d'un personnage pour faire sortir les poumons et donner l'impression que ça fait un aigle sanguinolent. Alors, est-ce que cette torture existait vraiment? Il y a des textes qui le racontent, qui semblent le raconter. On a un texte du XIVe siècle, dit des fils de Ragnar, qui explique que le roi Ella, qui est un roi anglais, fut fait prisonnier. Ivar et ses frères, donc des chefs vikings, se souvinrent de la manière dont leur père avait été torturé, leur père Ragnar. Ils firent tailler un aigle dans le dos d'Ella, puis séparer toutes les côtes de l'échine avec une épée de façon à lui arracher par là les poumons. Mais c'est un texte du XIVe siècle. L'épisode est censé s'être déroulé au IXe siècle. Il y a 500 ans de distance. D'où vient ce texte? En fait, ce texte, l'auteur anonyme l'a imaginé à partir d'un vieux poème, un vieux norrois, qui lui daterait du XIe siècle, donc un siècle et demi, deux siècles après les faits. Poème dont la traduction est très... parce que ces poèmes en vieux norrois sont très difficiles à traduire, c'est une écriture extrêmement ramassée. Et donc, plusieurs traductions sont possibles. Régis Boyer, le grand spécialiste de littérature nordique français, récemment disparu, avait traduit conformément à... Il avait compris finalement comme l'auteur du XIVe siècle a compris. À Jorvik, c'est-à-dire à York, siégeait Ivar qui fit découper un aigle dans le dos d'Ella. Mais la philologue américaine Roberta Frank traduit autrement le même texte. Elle dit « À Jorvik siégeait Ivar qui fit en sorte que l'aigle taille dans le dos d'Ella. » Et c'est une image très courante dans la poésie de l'époque. Abandonner les ennemis vaincus aux charognards. On a tué un ennemi, on le laisse mourir sur le champ de bataille, les loups, les chiens, les rapaces viennent manger le corps. Et donc ce n'est pas une torture, c'est la dure loi de la guerre. Les deux traductions sont possibles. Un auteur du XIVe siècle, déjà dans le monde viking, enfin dans le monde pas viking, dans le monde scandinave post-viking, avait compris dans le même sens que Régis Boyer. Il racontait une histoire d'aigle de sang. Mais on n'est pas sûr que cette torture existait. Et puis la violence, elle est exercée aussi par les autres et pas seulement par les vikings. Hein. Ragnar, précisément, le roi Ragnar, qui est un roi légendaire du IXe siècle, il est lui-même censé avoir été torturé par le roi Ella qui l'a jeté dans une fosse aux serpents, ce qui n'est pas particulièrement sympathique. Les Francs et les Anglo-Saxons eux-mêmes peuvent être particulièrement violents avec leurs ennemis, quand c'est nécessaire. En fait, on est dans des sociétés où on exerce la violence quand on considère qu'elle est nécessaire. Qu'elle est nécessaire pour impressionner, qu'elle est nécessaire pour frapper un grand coup, disons, d'une certaine manière. Charlemagne, d'après les annales royales franques elles-mêmes, aurait fait tuer 4500 Saxons d'un seul coup au confluent de la Lair et de la Vézère lors des guerres saxonnes. On ne peut pas dire que les dirigeants chrétiens de l'époque étaient plus doux que les Vikings. Il y a un exemple célèbre, enfin célèbre depuis que ce site archéologique a été découvert il y a une quinzaine d'années, c'est le charnier du Dorset Ridgeway. On est dans le sud-ouest de l'Angleterre, sur la côte du Dorset, et on a retrouvé une cinquantaine de corps. Alors vous voyez comment sont ces corps, c'est-à-dire que les crânes sont d'un côté et les ossements sont d'un autre côté. Les hommes qui ont été, j'ose pas dire enterrés, qui ont été jetés dans une fosse commune à cet endroit-là, étaient tous des hommes jeunes, entre 15 et 30 ans à peu près. L'analyse de l'émail de leurs dents montre qu'ils avaient grandi en Scandinavie ou sur les rives de la mer Baltique, sur les rives sud de la mer Baltique, la Pologne actuelle en gros. C'était probablement une bande viking qui essayait de piller la région et puis qui s'est fait prendre par l'armée anglaise. Et ils ont tous été exécutés sur le champ. Et puis on a jeté les corps d'un côté, les têtes de l'autre. Et on a retrouvé l'ensemble il y a une quinzaine d'années, en construisant un parking, je crois. Voilà. Donc, violence, oui, bien sûr, les Vikings sont des gens violents, mais ce n'est pas les seuls. Et puis, il ne faut pas exagérer cette violence. Passons à la géographie. La géographie de ce phénomène viking est très vaste. Je vais l'illustrer par trois petits objets qui ont été retrouvés dans un habitat qui a été fouillé il y a peut-être bien 50 ans maintenant, pas très loin de Stockholm, dans l'île de Helgö, en Suède. On est dans un habitat du 8e siècle, donc au tout début de l'époque viking. On a retrouvé d'abord ces trois objets qui ont été retrouvés à quelques mètres les uns des autres. On a retrouvé, premier objet, vous voyez, une crosse abbatiale ou épiscopale irlandaise. On a retrouvé ensuite une louche en bronze qui vient d'Égypte, qui est un objet copte. Puis on a retrouvé un petit Bouddha d'Asie centrale. On a ici trois objets, évidemment, qui dessinent une géographie extrêmement vaste, de l'extrême occident de l'Irlande jusqu'au Moyen-Orient, et même au-delà du Moyen-Orient. Hein, on est, pour ce Bouddha, on est sans doute dans l'Afghanistan actuel. Alors ça ne veut pas dire que les Vikings eux-mêmes sont allés jusqu'en Afghanistan, pas nécessairement. Hein. Ce sont des marchands, ils peuvent avoir obtenu un objet de quelqu'un qui venait d'ailleurs, évidemment. Hein. Ça ne prouve pas que des gens de Helgö, de la région de Stockholm aujourd'hui, sont allés jusqu'en Irlande, sont allés jusqu'en Égypte, sont allés jusqu'en Afghanistan. Mais on a quand même, vous le voyez, un monde qui est connecté. Qui est connecté et qui connectent les mondes. Les Vikings sont des gens qui sont à des nœuds de communication. Près de Helgö est fondé le comptoir ou le port de Birka, près de l'actuel Stockholm, qui est l'un des grands nœuds de communication la fin du premier millénaire, début du deuxième millénaire. Et ce qui montre très bien cette connexion, c'est, je vous le disais, le grand nombre de monnaies d'argent qu'on retrouve partout en Scandinavie, des monnaies d'argent originaires d'Angleterre, des monnaies d'argent originaires du monde franc et des monnaies d'argent, surtout des monnaies d'argent du monde islamique. Et j'oubliais les monnaies du monde byzantin aussi. Les plus nombreuses, hein, c'est les monnaies du monde islamique. À tel point que un archéologue a pu dire, évidemment c'est un peu provocateur, mais que la phrase qu'on lit le plus souvent dans le monde viking, c'est une phrase écrite en arabe, c'est « Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est le prophète de Dieu ». C'est écrit sur toutes les monnaies. C'est la phrase qui était probablement, la phrase écrite qui était probablement la plus fréquente dans cette Scandinavie du Haut Moyen-Âge. Alors voilà cette géographie très vaste, il en manque, en particulier vers l'Est, puisqu'on ne voit pas la mer Caspienne sur cette carte. Mais vous voyez, on a une géographie qui va jusqu'en Méditerranée, qui va dans l'Atlantique Nord, et qui est évidemment centrée sur les grands comptoirs que sont Birka en Suède, Hedeby au Danemark. C'est les deux grands comptoirs, Birka et Hedeby. Alors on va aller des deux côtés, d'abord vers l'ouest, puis vers l'est. L'Atlantique Nord, d'abord. On a pu parler de saut de mouton pour la découverte de l'Atlantique Nord. On va d'île en île, d'archipel en archipel. Depuis la Norvège, on n'est pas très loin des Shetland et des Orcades, qui sont immédiatement au nord de la Grande-Bretagne. Une fois qu'on s'est implanté dans les Shetland et les Orcades, on n'est pas très loin des Féroé. Une fois qu'on est dans les Féroé, on peut pousser jusqu'en Islande. Ça fait déjà un peu plus loin, mais c'est possible. Et puis, finalement, on va jusqu'au Groenland. Et enfin, jusqu'à l'Amérique du Nord. Je ne vais pas vous parler des premières étapes, même si ce serait très intéressant de parler de l'Islande, mais je saute directement au Groenland. Le Groenland, c'est vers l'an 1000 que des Vikings, des Scandinaves, faisant des expéditions maritimes pour s'enrichir, des Vikings, s'installent au Groenland. Le personnage qui est associé à ça, c'est Éric le Rouge, qui est le fondateur en particulier de ce qu'on a appelé l'établissement oriental. Alors il y a trois établissements principaux qui existent au Groenland, qui s'appelle établissement oriental, établissement intermédiaire ou central et établissement occidental. Donc comme vous le voyez, l'établissement oriental est au sud et l'établissement occidental est au nord. Dans la perspective d'un navigateur scandinave, c'est une navigation est-ouest. Donc on arrive d'abord dans l'établissement est et puis en continuant la côte, on arrive à l'établissement ouest. Même si, objectivement, c'est nord-sud plutôt que est-ouest. Mais il faut se placer dans la perception du navigateur qui arrive de l'Est. L'archéologie a permis de retrouver les fondations de la ferme d'Éric le Rouge et de l'église qu'il a construite immédiatement au Groenland. Car vers l'an 1000, les Islandais sont chrétiens et quand ils s'installent au Groenland, ils importent le christianisme. Alors, sont-ils allés plus loin? Pendant longtemps, ça a été une question qui a été posée par les historiens. Est-ce qu'ils sont vraiment allés plus loin? Parce que nous n'avions comme trace que des sagas. Les sagas, ce sont des récits écrits en Islande au XIIIe, au XIVe siècle, longtemps après l'époque viking, 200, 300 ans après l'époque viking. Et ce sont des récits qui ressemblent un peu à des romans historiques. Ce ne sont pas des ouvrages d'histoire répondant aux critères de fiabilité que l'on est en droit d'exiger d'un ouvrage d'histoire. C'est plutôt des romans historiques qui racontent l'histoire des grands ancêtres. On avait la saga d'Éric le Rouge, qui racontait les aventures d'Éric le Rouge et la fondation du Groenland, la saga des Groenlandais et le dit des Groenlandais. Trois textes qui racontaient que, en particulier, le fils d'Éric le Rouge, Leif Erikson, était allé jusqu'à des terres au-delà du Groenland, terres qu'il avait appelées Helleland, Markland et Vinland. Helleland, ça veut dire le pays des pierres. Markland, ça veut dire le pays des forêts. Et Vinland, ça peut vouloir dire le pays des prairies et ça peut vouloir dire le pays de la vigne. Ça dépend si vous mettez un i long ou un i bref, la vigne. Et on avait ces textes-là, on avait des cartes aussi, mais des cartes très tardives. Un célèbre faux qu'on appelle la carte du Vinland, et des cartes très tardives à partir du XVIe siècle. Donc, les cartes du XVIe siècle, à une époque, on savait déjà que l'Amérique existait. Et donc, pendant longtemps, on s'est posé la question, est-ce qu'ils y sont vraiment allés ? Oui, ils y sont allés, on en est sûr, grâce à l'archéologie. On a retrouvé à Los Olmedos, dans le nord de l'île de Terre-Neuve, au Canada, les fondations de maisons en tourbe qui sont exactement dans la tradition architecturale des constructions islandaises. C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient appris à construire des maisons en Islande, qui ont construit trois maisons en tourbe, en mode de gazon, en fait, pour être précis. On empile des modes de gazon. Alors, évidemment, là, c'est une reconstitution. Hein. On n'a pas retrouvé ça. Là, c'est dans le musée actuel de Los Olmedos qu'on peut voir une maison reconstituée à la mode de l'époque. Ce qu'on a retrouvé, c'est les fondations uniquement, bien sûr. Mais c'est la preuve que des gens venus d'Islande, et probablement du Groenland, via le Groenland, se sont implantés à cet endroit-là pendant quelque temps. Alors pourquoi ? Probablement qu'ils étaient à la recherche de bois. Il n'y a pas de forêt au Groenland. Et quand on est au Groenland, il est plus facile d'aller chercher du bois vers l'ouest pour réparer les navires, pour toute une série d'usages du bois. C'est plus facile d'aller chercher du bois vers l'est que de faire la route en retour jusqu'en Norvège ou jusqu'en Irlande ou en Grande-Bretagne. Il y avait des forêts en Islande quand les Scandinaves sont arrivés, mais ils ont coupé les forêts très très vite et elles n'ont jamais repoussé. En tout cas, ils sont restés là 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'ils sont restés de manière permanente ou est-ce que c'était une base qui leur servait à passer l'hiver avant de repartir vers le nord jusqu'au Groenland? C'est très difficile à dire. J'oubliais de dire qu'on a retrouvé aussi des objets qui témoignent d'artisanat scandinave sur ce site. Donc il n'y a vraiment plus aucun doute. Ils sont allés jusqu'en Amérique. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'ils ont découvert l'Amérique ? Déjà, personne n'a jamais découvert l'Amérique, puisqu'il y avait des Américains en Amérique avant qu'on découvre l'Amérique. C'est une première chose. Et puis, par ailleurs, ils n'étaient pas conscients d'avoir découvert un autre monde, un autre continent, etc. Pour eux, c'était une extension technique du Groenland. Et ça n'a pas duré bien longtemps. Ce n'est pas un endroit où ils ont jugé bon de poursuivre. Du côté de l'Est, en revanche, ils ont jugé bon de poursuivre. À l'Est, les Vikings portent deux noms différents. On les appelle les Rousses. Alors en grec, Ros, en arabe, Arrous. Un mot qui vient probablement de l'idée de rameur. C'est le mot qui a donné naissance au mot russe, Russie. C'est de là que vient le nom de la Russie. On les appelle aussi les Varegs, ou varangien. C'est un mot qu'on trouve en grec, qu'on trouve dans les langues slaves, et qui vient probablement d'un mot norrois, vairingar, qui signifie ceux qui s'associent par serment, qui s'associent pour faire des expéditions. Et on voit beaucoup de ces rousses ou varegs sur les routes du Nord. On les voit dans les manuscrits, manuscrits byzantins du début du XIe siècle, qui représentent des guerriers rousses ou des guerriers varangiens, varegs, en train de combattre et de martyriser une sainte. Et l'archéologue Sarah Croix, qui travaille à l'université d'Aarhus, a reconstitué le costume d'un de ces vikings de l'Est à partir des fouilles de Birka en Suède. Voilà comment s'habillait probablement un viking de l'Est. Ça ne ressemble pas à notre stéréotype du viking, hein. Pas du tout. C'est parce que les vikings s'habillent comme les gens de la région où ils s'installent. Ce sont des gens qui sont pragmatiques. Quand ils vont dans l'Europe centrale, l'Europe orientale, pardon, où il fait très froid et où il faut porter de la fourrure, ils portent de la fourrure. Quand ils vont piller les côtes de l'Aquitaine ou du Portugal actuel, à mon avis, ils ne portent pas de fourrure. Ils s'habillent autrement. Et c'est assez logique, en fait, quand on y pense. Au passage, le casque à cornes n'existe pas à l'époque viking. C'est une légende complète. Il y a une saga célèbre, pas assez célèbre à mon goût, elle mériterait de l'être plus, qui s'appelle la saga d'Ingvar, le grand voyageur. Elle a été traduite par Jean Renaud et elle est publiée dans le volume dont vous avez ici la couverture. Elle raconte, alors elle est très tardive, hein, 14e siècle, peut-être même 15e, elle raconte une expédition qui aurait eu lieu vers 1041, des Suédois qui serait parti vers le Serkland. Serkland, il y a plusieurs traductions possibles. Ça peut vouloir dire Serkland, le pays des Sarrasins. Donc, le monde arabo-islamique. Ça peut être aussi le pays de ce qu'en latin on appelle la Serica, c'est-à-dire la soie. Le pays de la soie, c'est la route de la soie, c'est l'Asie centrale et au-delà la Chine. L'expédition traverse la Baltique depuis la Suède, traverse la Russie du Nord, descend la Volga et arrive jusqu'en Caspienne. Et là, ils meurent tous, quasiment. Et puis, des siècles plus tard, 4 siècles plus tard environ, on raconte leur saga. Alors, est-ce que cette expédition a eu lieu ? Oui. Comment on le sait ? Parce qu'on a retrouvé en Suède un nombre assez important de pierres runiques qui ont été érigées par des fils, des frères, des filles, des épouses, de gens qui ont participé à l'expédition et qui ont commémoré les gens en question en disant « Je fais ériger cette pierre en l'honneur d'un tel qui est parti avec Ingvar vers l'Est et qui n'est pas revenu. Que Dieu veille sur son âme. » Et on a, je crois, une quinzaine de pierres qui nous donnent les noms de gens de cette expédition. Alors, ça ne veut pas dire que tous les détails de la saga sont vrais, hein, évidemment. Ensuite, on brode, on raconte. Mais cette saga a une réalité à la base. Voilà un peu la route, hein. On traverse la Baltique. La distribution des pierres qui mentionne Ingvar et son expédition Vous avez ici une pierre au sud de Stockholm, dans le Södermanland, où vous avez en runes écrit le nom de la personne qui est partie, et on sait qu'il était avec Ingvar au Serkland. Je termine avec la question de la diaspora. Une fois que tous ces Vikings sont partis dans toutes les directions, qu'ils ont fondé des principautés en Normandie, en Russie, dans les Shetland, dans les Orcades, en Irlande, en Angleterre, etc., est-ce qu'on peut dire qu'ils forment une diaspora ? Qu'est-ce que c'est qu'une diaspora ? Je vais reprendre le propos de l'historienne britannique Judith Jesch, qui a écrit un livre que je trouve excellent, intitulé « The Viking Diaspora ». Pour parler de diaspora, il faut qu'il y ait une dispersion depuis un territoire original, pour des raisons diverses, ici pour s'enrichir, c'est le cas. Il faut qu'il y ait une mémoire collective et des mythes qui parlent de ce territoire originel, qui est désormais idéalisé. Il n'y a pas vraiment ça dans le monde viking. Ils parlent parfois de la Norvège, en particulier depuis l'Islande. Ils ont un souvenir de la Norvège. Il faut des mouvements de retour, des maintiens de contact et de conversation entre les différentes communautés qui composent la diaspora. Alors ça, il n'y a pas de doute, ça circule. On va en reparler. Il faut l'idée d'une sorte de conscience commune, conscience ethnique sur la longue durée, sens de co-responsabilité envers les autres membres, envers les autres groupes. Cette idée qu'on est un peu solidaire entre différents groupes de la diaspora. La solidarité entre groupes vikings, c'est pas franchement la caractéristique première. Les vikings, ils cherchent à s'enrichir. Ça peut être en pillant des francs ou des anglo-saxons, mais ça peut aussi être en pillant d'autres vikings, évidemment. Ils sont extrêmement compétitifs les uns à l'égard des autres, les uns envers les autres. Et puis, les diasporas ont des relations troublées et complexes avec les sociétés d'accueil, des moments où ça se passe bien, des moments où ça se passe moins bien, avec une vie culturelle spécifique qui peut enrichir les sociétés d'accueil. Une diaspora n'a pas une culture unique commune, mais chaque groupe dans chaque pays a sa propre culture, en lien avec la culture de la région où le groupe est implanté, et ces cultures sont connectées. Il y a de ça chez les Vikings. Je vais prendre trois exemples. Je vais prendre l'exemple des runes. Je vais prendre l'exemple des noms de personnes. Et je vais prendre l'exemple de la religion. Pour vous montrer qu'il y a du commun entre les différents groupes vikings dans toutes ces régions dispersées du Groenland jusqu'à la Russie. Les runes. On a retrouvé en Scandinavie, mais aussi dans une moindre mesure dans le reste du monde viking, des pierres runiques en très grand nombre, écrites donc dans cet alphabet qu'on appelle les runes, qui est une adaptation de l'alphabet latin, qui a été faite au 1er, 2e siècle de notre ère, pour écrire les langues germaniques. Alors, est-ce que les runes sont communes au monde viking ? En partie seulement. Quand on regarde la géographie des runes, elles sont en fait surtout en Scandinavie, et en fait surtout au Danemark et en Suède, et en fait surtout en Suède. Quand vous regardez la carte ici, vous voyez la concentration autour de Stockholm. On a presque 80% des pierres runiques qui sont dans la région de Stockholm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, hein, mais c'est quand même écrasant. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pierres runiques ? Voilà une pierre runique typique, tout à fait ordinaire, la pierre de U241 dans la province suédoise d'Uppland, Lingsberg. Que disent ces pierres généralement ? Un tel a fait ériger cette pierre en mémoire d'un tel, que Dieu ait pitié et soin de son âme. L'immense majorité de ces pierres sont chrétiennes. Donc les runes, oubliez l'idée selon laquelle les runes sont des caractères païen, magique, etc. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour écrire la langue. En particulier l'écrire sur pierre. C'est des caractères très anguleux. Donc ils se prêtent bien à l'épigraphie. Se prêtent bien à l'écriture sur pierre. Voilà. C'est vraiment une pierre typique. Alors ici, en plus, c'est la mémoire d'un viking, puisque c'est quelqu'un qui a pris deux tribus en Angleterre. Il est allé deux fois en Angleterre, il est revenu avec de l'argent. Des pierres très célèbres, ce sont les pierres de Yelling. Les deux pierres à Yelling, le roi Gorm, donc la petite pierre et la grande pierre. La petite pierre à droite, la grande à gauche. La petite pierre dit, le roi Gorm a ordonné de faire ce monument à la mémoire de Thur, son épouse, ornement du Danemark. Et Harald, le fils de Gorm, a écrit sur sa grande pierre, le roi Harald a ordonné de faire ce monument à la mémoire de Gorm, son père, et à celle de Thur, sa mère. Ce Harald qui a gagné pour lui tout le Danemark et la Norvège et qui a fait des Danois des chrétiens, qui a converti les Danois au christianisme. Il s'en vante. En fait, le processus de christianisation est beaucoup plus lent. Ce n'est pas lui tout seul, évidemment, qui a fait cela. Cette pierre, vous la connaissez sans doute. Vous savez qu'il en existe une représentation, pas très loin d'ici, juste à côté de l'église Saint-Ouen, hein, sur le flanc sud de l'église Saint-Ouen. Ce n'est pas une pierre de la diaspora viking. C'est une reproduction, évidemment, qui a été installée pour le millénaire de la Normandie, je crois. Hein, c'est ça, en 1911. Ces runes, on les retrouve sur des pierres runiques. Et en fait, à travers le monde viking, on les retrouve un petit peu partout et de manière très ordinaire. Jusqu'au XIIIe siècle, même jusqu'au XIVe, on les utilise sur ce qu'on appelle des bâtons à runes. Ce sont des languettes de bois sur lesquelles on écrit des messages. Alors ça peut être des messages vraiment très simples. Hein, 12 ballots de laine et 8 aunes de toile, 8 aunes de drap plutôt, si c'est de la laine. Ça peut être... Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est un rendez-vous, c'est un homme qui écrit à sa bien-aimée en lui disant « Retrouve-moi à telle heure demain. » Bon, voilà. Des bâtons à runes. C'est... Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce petit message. Un petit message, un texto du XIIIe siècle, effectivement. Tout à fait. Vous voyez, c'est pas magique, les runes. Ça peut servir à faire de la magie, comme toute écriture. Ça peut aussi servir à faire de la magie. Mais c'est pas fait pour ça. C'est fait pour écrire. Et c'est fait pour écrire en particulier sur un support dur, où on grave. Dès qu'on est sur une page où on écrit avec une plume, alors on écrit plutôt en alphabet latin. On trouve des runes un peu partout, je vous l'ai dit. Il y en a deux que j'aime bien. Deux objets que j'aime bien. Il y a le lion du Pirée, qui, comme son nom l'indique, est à Venise. Alors, il était au Pirée, le port d'Athènes. Et puis, au XIIIe siècle, les Vénitiens, quand ils se sont emparés d'Athènes, ils ont pris le lion en question, et ils l'ont porté jusqu'à l'entrée de l'arsenal de Venise. Si vous allez à Venise, vous verrez le lion à l'entrée de l'arsenal. Et sur le... Alors, vous voyez peut-être pas, mais il y a une inscription runique sur le... C'est ici. À cet endroit-là, il y a quelqu'un qui a écrit son nom. Un viking qui a écrit son nom. Et puis dans la cathédrale Sainte-Sophie, à Istanbul... Il y a quelqu'un qui a écrit, alors, lecture possible parce que c'est quand même à moitié effacé, Halfdan a fait ses runes. En gros, un graffiti, Halfdan était ici. Voilà. Donc là encore, c'est pas magique, hein. C'est pas magique. Et runes encore. Dans le nord de l'Angleterre, nord-ouest de l'Angleterre, pas loin de la frontière écossaise, à Brightkirk, il y a quelqu'un qui écrit Richard m'a fait. Alors c'est une église, hein. C'est une église qui a été construite par un seigneur normand après la conquête normande de l'Angleterre. Donc il a un nom typiquement normand. Il s'appelle Richard. Il doit y avoir un Normand sur cinq à cette époque parmi les élites qui s'appelle Richard, l'autre s'appelle Robert et le troisième s'appelle Guillaume. Et il fait écrire sur l'église qu'il a fondée et qu'il a fait construire, « Richard m'a fait et m'a donné cette splendeur. » Alors, vous voyez, on a quelqu'un qui a un nom normand, normano-franc, qui est dans le nord-ouest de l'Angleterre, dans une région de culture plutôt celtique, plutôt bretonne, mais où il y a une forte implantation viking depuis le IXe siècle, et qui donc s'inscrit dans une tradition locale d'épigraphie, d'écriture sur pierre en runes. Puisque depuis deux siècles, dans cette région, il y a une élite qui domine la région et qui est de culture en partie scandinave. Mais c'est la culture scandinave de la région. Vous ne trouverez pas de runes en Normandie. La culture post-viking de Normandie, il n'y a pas les runes dedans. Mais la culture post-viking du nord-ouest de l'Angleterre, il y a les runes dedans. C'est des traits culturels à géométrie variable. C'est tout à fait typique des diasporas, ce genre de choses. Deuxième exemple, l'anthroponymie. C'est un gros mot pour dire les noms de personnes. On a énormément de gens dans ce monde viking qui ont des noms doubles, voire triples. Avec un nom traditionnel scandinave, et un nom chrétien qui a pu leur être donné lors de leur baptême. Le grand roi de Danemark et d'Angleterre, Knut, il s'appelle aussi Lambert, c'est son nom de baptême. On a un roi de Suède qui s'appelle Önundur Jacques. Jacques, c'est son nom de baptême, Jacobus en latin. Là, je l'aime bien, celui-là. On a Haraldur Mstislav Theodor Fjodor. Alors, Haraldur, c'est son nom scandinave, mais comme c'est quelqu'un qui vit dans un monde slave, il a un nom russe, Stislav, mais comme c'est un chrétien baptisé, il a aussi un nom de saint chrétien. Et comme on est dans la chrétienté orientale orthodoxe, c'est un nom de saint chrétien grec, Théodore. Il est connu par la forme russe de ce nom grec. Théodore, en russe, ça se dit Fyodor. Et selon la situation où il se trouvait, il s'appelait tantôt Harald, tantôt Mstislav, tantôt Théodore. Mais on est nombreux à avoir plusieurs noms selon les situations d'interaction où on est. Il y a des moments où on utilise plutôt notre nom de famille, parce que la situation exige d'utiliser le nom de famille. Et des moments où on utilise plutôt notre prénom, on peut avoir un surnom. Avec les amis, c'est le surnom qu'on utilise. Enfin, voyez, il ne faut pas imaginer que ces vikings sont si étranges que cela de ce côté-là. On a aussi des traductions de noms scandinaves. Quand on s'appelle Rolfur, ça paraît bizarre. En fait, c'est un nom germanique qui a des équivalents dans plusieurs langues germaniques. Si vous êtes en Allemagne, vous vous ferez appeler Rodulf. Si vous êtes dans un monde de culture franque, vous vous ferez appeler Raoul. C'est le même nom. Et c'est Rodolphus en latin. Si vous vous appelez Édouard ou Eadwéard en vieil anglais, vous passez côté scandinave et vous utilisez la forme scandinave, Yadvarður. C'est comme, je ne sais pas, si vous vous appelez Philippe, vous allez en Espagne, on vous appellera peut-être Felipe. Traduction du nom. Et puis on peut transférer les noms de personnes d'une langue à l'autre. Il y a beaucoup de gens, de femmes en Scandinavie à l'époque, d'hommes qui s'appellent Helgi et de femmes qui s'appellent Helga. Eh bien en russe, ça devient Oleg et Olga. Vladimir, Valdemar, c'est la même chose, dans l'autre sens. Je vais vous prendre l'exemple de la généalogie de Knut le Grand, roi des Anglais et des Danois. Knut le Grand, c'est le grand roi viking par excellence. En fait, quand on prend sa généalogie, Tous les gens en vert, ce sont des Slaves. Sa mère était une princesse polonaise, donc son grand-père maternel était un duc de Pologne, sa grand-mère était une Tchèque, son arrière-grand-père était donc un duc de Bohême. Il a un autre grand-père qui était prince des Abodrites. Les Abodrites sont un peuple dans le nord-est de l'Allemagne actuelle, un peuple slave. Bref, il n'était scandinave qu'à un quart, ce grand roi viking si réputé. On n'a pas de caractérisation vraiment ethnique des vikings, hein, j'insiste là-dessus. C'est un monde du nord où ça circule. Et puis alors, il s'est marié, Knut, il s'est marié avec une épouse anglaise, Elfgivu de Northampton, et une épouse normande, Emma de Normandie, la sœur de Richard II, c'est ça, ou la fille de Richard II, j'ai un doute. Troisième et dernier point, et je m'arrêterai là, la religion. La religion des vikings, le plus souvent, c'est le christianisme. Sauf au IXe siècle, dans les premiers temps, on a peu de vikings chrétiens, mais à partir du Xe siècle, la plupart des vikings sont chrétiens. Et pendant les deux tiers de l'époque viking, en gros, c'est le christianisme. Et alors, ensuite, dans la diaspora provoquée par le phénomène viking, c'est vraiment le christianisme qui domine partout. Voilà la date de conversion de quelques princes de la diaspora viking. J'ai mis un code de couleur. Les vikings sont en bleu. Les vikings, c'est-à-dire les Scandinaves qui sont partis faire des expéditions pour s'enrichir. Les vikings sont en bleu, c'est dans l'ordre chronologique. En vert, vous avez des souverains qui ont régné en Scandinavie, mais qui ont été convertis à l'extérieur de la Scandinavie, généralement en faisant une expédition viking. Et les souverains qui ont été convertis en Scandinavie même sont en rouge. Vous voyez la chronologie du phénomène ? Les vikings se sont convertis au christianisme avant les Scandinaves. C'est logique, puisque les vikings sont ceux qui ont quitté la Scandinavie, c'est ceux qui ont été en contact avec le christianisme en premier. Donc, la christianisation de la Scandinavie s'est faite, parce qu'il y a des gens qui ont quitté la Scandinavie, qui sont revenus, qui ont eu des allers-retours, et qui ont eu des échanges culturels. Des gens qui ont discuté, qui ont dit « Tiens, ce Dieu nouveau, pourquoi pas, il est intéressant, il apporte la victoire, il apporte la prospérité, pourquoi pas essayer ?» Donc, vous voyez à quel point il faut sortir de certains stéréotypes. Le christianisme en Scandinavie n'a pas été implanté contre les vikings. Il a été implanté par les vikings, ou du moins à cause du phénomène viking. Et une fois qu'il est implanté, vous avez un certain nombre de phénomènes à l'échelle de toute la diaspora. Je prends un exemple, le culte de Saint Clément. Ça peut paraître bizarre, le culte de Saint Clément, c'est un pape, Saint Clément. C'est le troisième successeur de Saint Pierre, vers 100 après Jésus-Christ. Sauf que ce Saint Clément, la légende raconte qu'il a été martyrisé en Crimée. Et donc les reliques de Saint Clément étaient présentes à Constantinople et en Crimée. Et vous avez des vikings qui passent par la Crimée, qui passent par le sud de la Russie, pour aller vers Constantinople. Et ce culte de Saint Clément, il se répand vers le nord depuis la Crimée. On a une église de Saint Clément, dédiée à Saint Clément à Kiev, qu'on appelle l'église de la Dîme. On en a une autre à Oslo. On en a d'autres, hein, mais je vous en prends trois. Et on en a une troisième à Londres. Une église de Saint-Clément qui s'appelle Saint-Clement Danes, c'est-à-dire littéralement Saint-Clément des Danois. Alors ça donne une impression d'uniformité, sauf que ce n'était pas du tout la même liturgie qui était célébrée dans ces trois églises. À Kiev, c'était une liturgie orientale en slavon. À Oslo et à Londres, c'était une liturgie occidentale en latin, en l'honneur de Saint Clément, entre autres. L'église était dédiée à Saint Clément. Et puis, la vie de Saint Clément qu'on racontait, à l'est, c'était plutôt une vie de Saint Clément d'inspiration grecque et byzantine. À l'ouest, on racontait probablement une vie de Saint Clément d'inspiration romaine. Donc, il y a des traits communs à travers toute cette diaspora, mais dans chaque région, on fait un peu à sa sauce, à sa manière. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille trois publications. Il y a le livre d'Anders Winroth, Au temps des Vikings, un livre dont j'ai fait la préface. Alors, ce n'est pas parce que j'ai fait la préface que j'en fais la publicité, c'est parce que j'aime bien le livre que j'en ai fait la préface. Donc, c'est vraiment, à mon avis, un très bon livre. Et puis, il y a deux magazines, le magazine L'Histoire et le tout dernier, alors, ce n'est plus le tout dernier, c'est l'avant-dernier numéro des dossiers d'archéologie sur les Vikings, où vous aurez des informations très à jour sur les Vikings. Je vous remercie.